silence devant le Seigneur Dieu, car le jour du Seigneur est proche. Le Seigneur a préparé le sacrifice, il a consacré ceux qu'il a convoqués. En ce jour-là, en ce jour du sacrifice du Seigneur, je ferai rendre des comptes aux princes et aux fils du roi, à tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je ferai rendre des comptes à quiconque saute par-dessus le seuil, à ceux qui remplissent de violence et de tromperie la maison de leur Seigneur. En ce jour-là, déclaration du Seigneur, des cris retentiront depuis la porte des poissons, des hurlements de la ville neuve et un grand fracas des collines. Hurlez, habitants du Maktesh, car tout le peuple de Canaan est perdu. J'ai choisi en introduction ce texte de Sophonie, ce texte inspiré par notre Dieu, parce qu'il associe, comme vous vous en rendez compte, le thème de la violence et celui du sacrifice. Et il le fait sans ménager le moins du monde la sensibilité de notre temps, de telle sorte que nous sommes d'emblée jetés dans la difficulté que nous avons à traiter ce matin et aujourd'hui. Avant cependant d'aborder plus analytiquement le sujet lui-même, j'éprouve le besoin d'expliciter ce que j'entends sous les termes clés. Je dois parler sous le titre de sacrifice et de violence. Que faut-il entendre sous ces termes? On a annoncé tout à l'heure que le systématicien s'occuperait sans doute de définition, et effectivement, il me semble nécessaire de le faire. Violence peut se dire de très diverses façons. Il peut se dire d'une simple intensité de force. On parle d'un violent séisme à partir du degré 7, disons, de l'échelle de Richter, ou d'une violente tempête 9, 10, Beaufort. Ça peut aller jusqu'à 11 ou 12, je crois. Ce sens du mot violence me semble dépourvu d'intérêt pour notre réflexion d'aujourd'hui, donc je le laisse simplement de côté. Dans les débats d'éthique, je préconise une définition que j'ai trouvée citée par Jacques Maritain dans son livre « Humanisme intégral ». Je la trouve très intéressante et utile. « Tout usage de la force auquel fait défaut le caractère d'instrument d'une loi positive », c'est-à-dire d'une loi effectivement édictée dans les systèmes législatifs. Je trouve cette définition très bien trouvée, car elle nous permet de manier un concept déchargé de la charge émotionnelle qui brouille si souvent le travail intellectuel. Là, ce n'est plus la violence comme slogan, et cette définition rend possible de parler d'une violence légitime, car au-dessus de la loi positive, il y a ce que les éthiciens appellent la loi naturelle, ou nous pourrions parler de la loi absolue du Seigneur lui-même. Pour mon sujet aujourd'hui, cependant, cette définition, que souvent je préfère, ne me semble pas tout à fait convenir, car si l'on définit la violence comme le fait cette citation, il n'y a plus guère de problème quant au rapport avec le sacrifice. Or, c'est précisément de ce rapport, perçu comme très délicat à traiter, que je dois vous entretenir. Alors, j'en cherche encore une autre. Hans Boersma, qui enseigne à Vancouver, dans un livre dont le sujet est assez voisin de celui de mon exposé, « Violence, Hospitality and the Cross », sur la théologie de l'expiation, a choisi comme définition, je cite, « tout usage de la coercition qui cause un dommage, que cet usage soit positif ou négatif ». Je développe un peu cette définition Je dirais qu'il y a violence, au sens où je vais employer le terme, quand l'emploi de la force supprime ou diminue la vie de l'être auquel elle s'applique. Supprime ou diminue. Attente à, si vous préférez. Je n'ai pas inclus la note précise de coercition, la note de la violation du vouloir de l'être qui souffre violence, pour sauvegarder le cas de la violence qu'on se fait à soi-même. C'est une expression, je me suis fait violence. Et pour sauvegarder surtout les cas où les mécanismes masochistes jouent un rôle important, où il y a donc consentement, mais où il y a, me semble-t-il aussi, violence. Avec Boursma, et c'est un avantage de la définition que je vais utiliser, on réserve la possibilité d'une violence positive. Malgré le dommage causé, c'est dans la définition, on peut supposer qu'il existe au moins des usages de la force causant dommage qui sont justifiés, voire bénéfiques. Laissons au moins cette possibilité ouverte. Je suis conscient que dans ma paraphrase de la définition, le mot « la vie » qui supprime ou diminue la vie, c'est assez vague, mais c'est intentionnellement vague, pour couvrir une assez grande diversité de sens, de situations envisageables, avec donc y compris la violence psychologique, ou éventuellement violence économique, la définition ne restreint pas à un acte de violence corporelle, physique, très directe, le champ qui est à considérer. Le sacrifice. Louis Bouillet, qui enseignait à l'Institut catholique, dans son livre fameux « Le rite et l'homme », déclare « Il n'est guère de point sur lequel l'accord soit plus difficile que sur la nature du sacrifice ». Et son traitement, il y a un chapitre qui est consacré à cette définition du sacrifice, demeure, me semble-t-il, éclairant. Il reconnaît qu'on ne doit pas, citation, « s'étonner que sacrifice soit pris couramment comme synonyme d'un acte rituel de mise à mort ».« Mactare victimas », c'est déjà pour Virgile un équivalent de sacrifié, dit-il. Et il reconnaît qu'une tradition très importante et nombreuse a suivi, qui a privilégié l'immolation pour le sacrifice. Mais il enregistre une réaction au XXe siècle, avec des théologiens comme Eugène Mazur, comme Marius Lepin, qui voient l'essence du sacrifice dans l'oblation, dans l'offrande, le transfert de propriété. C'est la divinité qui va devenir propriétaire par le moyen du sacrifice de ce qui est offert. Maurice de la Taille, très, très fameux, accepte cette définition, mais il ajoute que l'immolation s'ajoute à cause du péché, dans une situation donc de monde pécheur. La théologie catholique, avec appel à Thomas d'Aquin, prolonge volontiers et jusqu'à nos jours cette compréhension du sacrifice. Et elle est définie, par exemple, le sacrifice comme toute action, quelle qu'elle soit, je cite, hein, qui dénonce les droits souverains du Créateur, qui les dénonce au sens ancien, qui les affirme, qui les fait apparaître en pleine lumière. Et l'on joue très, très volontiers de ce côté-là de l'étymologie supposée de sacrifice, sacrum facere, faire du sacré. Bouillet critique. Il répond avec vigueur que le sacré préexiste dans les rites sacrificiels et que le sacré, c'est ce dont l'homme n'a aucune disposition, sur quoi il n'a aucune prise. Et il note assez finement que bien des rites sacrificiels visent en fait à désacraliser quelque chose qui est déjà plein d'énergie sacrée et qu'il faut désacraliser pour pouvoir en faire un usage profane. Il dit encore, ils sont souvent apotropaïques, ils éloignent les influences spirituelles, surnaturelles, mauvaises, apotropaïques plutôt que consécratoires, si par là on entend producteur du sacré. La solution de Bouillet est radicale. Je cite, « Le sacrifice, ce que nous appelons de ce mot après les Romains, n'est pas autre chose qu'un repas sacré. L'immolation, pour lui, n'est que l'abattage en vue de la consommation, et le feu, la simple cuisson en vue du repas. Il s'agit pour lui essentiellement de commensalité avec le Dieu, être compagnon de table, par commensalité par laquelle la vie divine est communiquée à l'homme. Bouillet critique explicitement, je cite, l'identification établie entre le sacrifice et la propitiation pour les péchés. Et pour lui, c'est le signe d'une préoccupation excessive concernant le péché et la grâce, dont il accuse le Moyen-Âge et particulièrement la Réforme. Bouillet me semble avoir été peu suivi dans son analyse de la nature du sacrifice et, je l'avoue, son interprétation particulièrement éloignée du sens biblique. J'ai critiqué dans un article de Fac Réflexion, il y a quelques années, l'idée de commensalité divine. Si on l'applique au sacrifice de l'Ancien Testament, le psaume 50 la rejette très expressément. Les pères fondateurs de la sociologie religieuse en France, Hubert et Mauss, définissaient le sacrifice comme un acte religieux qui, par la consécration d'une victime, victime suppose quand même une immolation, modifie l'état de la personne morale qui l'accomplit ou de certains objets auxquels elle s'intéresse. Le complément de Louis-Marie Chauvet, un autre professeur actuel encore à l'Institut catholique, me semble bien conçu, si l'on considère le sacrifice dans toutes les religions, très généralement. Deux pôles d'intentionnalité. Un pôle positif, d'offrande en hommage aux dieux, aux ancêtres, aux esprits. Un pôle négatif, de suppression des obstacles à la bonne communication avec eux, dans les sacrifices de type expiatoire ou celui du bouc émissaire. Il me semble que nous pouvons dire que dans le sacrifice biblique, c'est le deuxième pôle qui est privilégié, bien que le premier ne soit pas absent, celui de l'hommage. Pourquoi ce privilège au deuxième pôle, qui se traduit par le fait que les racines les plus courantes que nous traduisons par sacrifier dans l'Ancien et le Nouveau Testament, racine Zavar pour l'Ancien et la racine Suo pour le Nouveau, signifie immoler là-bas, égorger, immoler. Pourquoi un tel privilège, me semble-t-il, à cause du sens très aigu du caractère redoutable de la sainteté divine. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Il foudroie l'imprudent qui s'approche du trois fois saint, le Seigneur, à cause du sens de la souillure insupportable que le péché implique et telle que l'expiation ou la propitiation du Dieu irrité sont tout à fait indispensables pour qui veut s'approcher de lui. Ce qui veut dire violence au cœur du système sacrificiel. Il y a atteinte à la vie de la victime sacrificielle. Et beaucoup aujourd'hui s'insurgent contre cette violence faite à la victime. Peut-être aujourd'hui, pourrait-on dire, l'émotion suscitée par la violence faite aux animaux l'emporte sur celle faite aux humains. En tout cas, Chantal Delsol, dans un texte tout récent, parlait d'une véritable anthropophobie qui est présente dans les réactions de beaucoup, de telle sorte qu'on se soucie davantage de poussins en nombre excédentaire que d'embryons en nombre excédentaire. La thèse la plus élaborée, la plus puissante, dans le sens de cette réaction contre la violence sacrificielle, c'est celle de René Girard. René Girard, intellectuel français, qui a maintenant 92 ans, récemment élu à l'Académie française, a fait une carrière tout à fait étonnante. Après avoir été élève de l'école des Chartes, Et avoir travaillé sur la littérature, il s'est fait connaître comme novateur en anthropologie. Il insiste beaucoup d'ailleurs sur le fait que c'est en anthropologie que sa thèse se situe. Et c'est aux États-Unis qu'il a eu sa chaire pendant très longtemps, dans l'université Stanford fameuse, et qu'il a fait toute sa carrière. Il a influencé les théologiens. Il y a tout un groupe de théologiens qui s'appelle Colloque sur la violence et la religion, qui travaille sous l'inspiration, pourrait-on dire, des thèses girardiennes. Et certains évangéliques en ont été assez nettement influencés. Je l'ai vu par exemple dans des articles du New Dictionary of Global Christianity, et puis dans ce livre de Boursma que j'ai mentionné, il consacre tout un chapitre à René Girard. Boursma a une identité en gros évangélique, bien qu'il faille définir le mot évangélique de manière large pour correspondre aux thèses qu'il défend dans leur entièreté. Alors, je vous présente la thèse de René Girard. Je pense que vous la connaissez déjà, mais que tous, peut-être, ne sont pas très au clair sur le détail. Alors, je vais résumer. J'essaierai de faire le point sur ses forces et ses faiblesses. Et puis, j'esquisserai une proposition à mes risques et périls en dernière partie. Donc, la thèse de René Girard. On peut vraiment employer le singulier, car c'est la même thèse qui lui sert de clé universelle qu'il répète de livre en livre qu'il enrichit, certes, qu'il modifie très très légèrement, qu'il a enrichi en particulier de plus en plus par de l'exégèse biblique, par l'interprétation d'un certain nombre de passages. Dans le livre qui avait d'abord présenté la thèse, La violence et le sacré, et il ne se déclarait pas si clairement chrétien, et il semble bien que l'intuition clé lui soit venue avant qu'il ait adhéré au christianisme catholique, dans les livres qui ont succédé, il se présente de plus en plus comme un apologète du christianisme. Premier élément, le mimétisme, la tendance à l'imitation comme caractéristique de l'humain. Il a même par moments l'air de faire du mimétisme la seule source du désir. Si je désire quelque chose, c'est parce que j'imite quelqu'un qui a ce désir près de moi. Je ne suis pas sûr qu'il défende cette thèse jusqu'au bout, mais c'est l'impression qu'il donne que c'est là la source du désir. La crise, deuxième point, la crise que ce mimétisme provoque. Là, c'est l'intuition peut-être la plus caractéristique. On imagine volontiers que la ressemblance et l'imitation conduit à l'harmonie, à la coopération. Ce n'est pas du tout le cas, souligne René Girard. En fait, le mimétisme fait s'affronter les rivaux. Et il suffit de regarder des enfants dans une nurserie, voir que si l'un a envie d'un jouet, immédiatement l'autre, par mimétisme, désire le même jouet et se met à se taper dessus. C'est le mimétisme crée le conflit des doubles, dit souvent René Girard. Finalement, l'effet du mimétisme, c'est la violence de tous contre tous. Et c'est une crise qui met en danger l'existence de la communauté elle-même. À vrai dire, il pense, et c'est sans doute assez plausible, que bien des communautés, à l'aube de l'histoire humaine, ont disparu, se sont détruites par effet de cette crise mimétique. Dans son exaspération, le mécanisme de l'imitation, cependant, peut jouer d'une autre façon qui résout la crise. La violence, mimétiquement, peut se tourner vers un individu, généralement un individu un peu différent des autres. Un rouquin, un boiteux, la violence de tous contre tous devient la violence de tous contre un. Et la foule déchaînée lynche le pauvre individu qui est considéré comme le criminel. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là, après ce lynchage? Le crime perpétré, l'agressivité retombe. Et une paix merveilleuse réconcilie tous les membres de la communauté. C'est là l'expérience de la résolution de la crise mimétique. C'est la preuve, pour ceux qui ont lynché le pauvre individu, que la victime était coupable, puisque sa suppression a produit un si bon effet. C'est bien la preuve qu'il était coupable, et même que cette victime maniait un pouvoir surnaturel, que finalement, c'était un être surhumain, qu'il était divin. Et le résultat paradoxal de la crise, c'est que la victime est considérée à la fois comme coupable et comme divine. Il cite dans le livre « Je vois Satan tomber comme l'éclair » un texte très intéressant qui ne représente pas la scène de la crise mimétique et sa résolution dans sa forme la plus crue, la plus primitive. C'est déjà un petit peu atténué, c'est déjà un petit peu arrangé, mais quand même, on la reconnaît très très bien. Un texte que je crois, je ne vais pas prendre le temps de lire, mais pourrais le lire si vous le demandez ensuite, dans les 10 minutes qui vont suivre. Un texte de la vie d'Apollonius de Tyane par Philostrate. Et c'est très très intéressant, ce texte du IIe siècle de notre ère, a souvent été cité par des critiques libéraux du Nouveau Testament à titre de comparaison avec les évangiles, en considérant que les miracles de ce Theosaner, de cet homme divin qui était Apollonius, sont un parallèle tout à fait intéressant de ce qu'on a dans les évangiles pour les miracles de Jésus. Le texte de Philostrate sert de parallèle pour suggérer le caractère légendaire des miracles de Jésus à beaucoup. Or, il y a un récit qui ressemble énormément à ce que décrit Girard de la crise mimétique. Le mécanisme en cause, c'est Satan. Satan est la personnification du mimétisme. Avec la violence de tous contre tous qui déchaîne, et finalement aussi le mécanisme qui permet de rétablir l'ordre. Et René Girard interprète de cette façon, c'est en détail dans ce livre-là, « Je vois Satan tomber comme l'éclair », la parole qu'on trouve en Matthieu 12 est parallèle, si Satan chasse Satan, Satan expulse Satan. Voilà ce qui se passe dans la crise mimétique. C'est le secret du pouvoir de Satan, dit en répétant très souvent cette même formule, René Girard. Satan, c'est le mécanisme mimétique. Satan a le pouvoir de rétablir l'ordre, son ordre qui implique la violence, par le fait qu'il s'expulse lui-même. Voilà ce qui se passe dans cette crise mimétique. Cette crise mimétique résolue, Satan expulsant Satan, est la fondation de toute la culture humaine. Voilà ce qu'affirme René Girard avec beaucoup d'assurance. C'est le secret, la chose cachée depuis la fondation du monde, qui est fondation du monde humain comme monde de la culture. Ce crime du lynchage de l'innocent, mais qui est ensuite divinisé, est à la fondation de toutes les institutions, de la royauté par exemple. René Girard est capable d'interpréter une association extrêmement curieuse, mais qu'on trouve tout, vraiment telle quelle dans les documents de l'anthropologie ou de l'ethnologie. Le roi est à la fois celui qui doit être sacrifié et le roi. Le roi, et c'est en quelque sorte une victime sacrificielle qui est réservée pour un temps et à qui les honneurs quasi divins sont présentés, sont offerts. Cette association de la mise à mort du roi et de son pouvoir royal est observée. Et Girard l'explique. La communauté des lyncheurs, ayant éprouvé que la mise à mort de la victime a produit un tel effet pacificateur, permis à la communauté de survivre, décide de répéter la chose, mais de la répéter d'une manière canalisée, ritualisée, de telle sorte que le bénéfice de restauration de l'ordre pourra être obtenu sans que le risque de la destruction de la communauté soit à nouveau encouru. Toutes les institutions représentent la répétition ritualisée, canalisée, en quelque sorte, de cette solution de la crise mimétique par mise à mort de l'individu. Et c'est tout spécialement le sacrifice. Entre la royauté et le sacrifice, il y a de toute façon aussi des relations, hein, pratiquement, dans toutes les cultures anciennes. Mais c'est tout spécialement le sacrifice. Le sacrifice, c'est la répétition rituelle de cette mise à mort qui a permis la restauration de l'ordre, et donc la paix. Donc la violence est au cœur du sacrifice. Alors les lyncheurs, ceux qui instituent ainsi cette culture humaine, les lyncheurs racontent l'histoire, selon ce qu'ils en ont compris, celui qui a été mis à mort était coupable et il était divin. Ils ont parfaitement bonne conscience puisqu'il était coupable et il révère son souvenir. C'est le cas de tous les mythes pour René Girard, les mythes sont le souvenir déformé, arrangé de cet événement qui a dû se reproduire souvent dans la vie des communautés anciennes, de cet événement du bouc émissaire. Il emploie très souvent l'expression aussi de bouc émissaire par référence à Lévitique 16, de cette victime qui était innocente mais qu'on a chargée de tous les péchés dont la mort a permis la vie communautaire. Les sacrifices sont cette répétition rituelle associée à un récit qui justifie entièrement ce qui a été la conduite originelle. C'est le cas de tous les mythes, et ils s'opposent aux interprétations habituelles de la mythologie, sauf dans la Bible. La Bible est le seul texte où ce crime de la communauté se tournant contre l'innocent n'est pas justifié par la prétendue culpabilité de ce pauvre air, mais où le crime est dénoncé comme crime. Ça commence dès Caïn et Abel. Contrairement à ce qu'on a dans les mythes de toutes les cultures, dans la Bible, il y a mise en lumière de la culpabilité des lyncheurs, de l'innocence de la victime. Alors, ça commence dans l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament, quand même, est encore très englué dans cette mentalité courante, de telle sorte qu'il a gardé le système sacrificiel, avec des animaux, certes, pour remplacer les victimes humaines, mais c'est toujours ce système sacrificiel. Il ne s'en libère pas encore totalement. C'est la, c'est la nouveauté qui est intéressante, ce qui tranche avec ce qu'on a partout dans le domaine des religions. Mais dans le Nouveau Testament, alors, nous avons le lynchage le plus ignoble au centre, la mise à mort atroce de celui qui est le juste, Jésus. Jésus est la victime. Et à cause de la résurrection, Girard semble croire à la résurrection, à cause de la résurrection, à cause de la conviction qui a animé une minorité des disciples, le mensonge qui est le cœur de tous les mythes a été là dénoncé. Le message de l'Évangile, c'est que la victime est innocente. La victime, c'est Jésus. Et cela établit alors le caractère pervers, coupable de toute la violence qui se déchaîne dans le monde. Satan ne peut plus expulser Satan parce que le mécanisme victimaire est mis en lumière. Ce mimétisme avec bouc émissaire est dénoncé par la croix de Jésus comme l'innocent contre lequel le crime des hommes s'est déchaîné. Oui. Vous voyez comment Girard situe la protestation biblique qui est une mise en lumière. L'essentiel pour lui, c'est que ce mécanisme qui fonctionne grâce au caractère inconscient de son déclenchement, ce mécanisme est révélé, des choses révélées qui étaient cachées depuis la fondation du monde. C'est là la grande efficacité du message de la croix. Mais cela implique que Girard dénonce toute interprétation sacrificielle de la croix. L'idée que la croix ait été voulue comme un sacrifice par Dieu, que ce soit dans le plan de Dieu, alors cela, c'est totalement exclu. C'est ce qui s'oppose radicalement à son interprétation du christianisme. Si Jésus a été jusqu'à la croix, c'est pour être absolument non-violent jusqu'au bout. Mais il n'y a en aucune façon une exigence divine derrière, un besoin d'expiation qui aurait requis le versement de son sang, etc. Surtout pas, cela est pour lui tout à fait exclu. Alors il reconnaît qu'il y a quand même quelques petites inconséquences ici ou là dans le Nouveau Testament, des façons de parler qui suggèrent encore la vieille mentalité sacrificielle. Dans un premier temps de sa carrière, il a dénoncé l'Épître aux Hébreux comme une rechute alors désastreuse dans la mentalité sacrificielle. Comme c'était quand même un peu gênant par rapport à sa prétention à parler au nom du christianisme et contre les libéraux, hein, contre les modernistes. Il a un peu changé de langage par rapport à l'Épître aux Hébreux, mais il en refuse toujours la signification qui a été celle qu'a retenue la tradition chrétienne tout entière, et en particulier la tradition évangélique. Ce n'est pas une expiation nécessaire du péché du point de vue de Dieu. Ah non, surtout pas, surtout pas. Cela, il l'exclut radicalement. Et donc, il déplore comme une rechute dans la mentalité païenne, correspondant à ces mythes, toute idée donc de sacrifice de la croix comme étant dans le plan de Dieu pour expier les péchés. Force et faiblesse de cette thèse. On peut saluer une prouesse intellectuelle. René Girard est capable d'expliquer synthétiquement, à partir d'une seule intuition qu'il possède, une masse vraiment très importante de données. J'ai déjà mentionné l'énigme de la royauté, mais il y a bien des traits de détail qui vont dans ce sens. Il peut s'aventurer sur le terrain de la psychanalyse, il réplique à Freud, etc. Il est d'une efficacité extraordinaire dans l'interprétation en faveur de sa thèse d'une multitude d'éléments pris dans divers domaines. Et il a une lucidité que j'estime remarquable sur l'imitation post-chrétienne après le dévoilement du mécanisme victimaire par la croix de Jésus. Il y a rechute, certes, mais il y a quand même un effet qui est très puissant, qui va conduire à l'Apocalypse, parce que les tensions du coup ne se résolvent plus comme elles pouvaient se résoudre précédemment. Mais il y a aussi des déguisements. Le principe du mimétisme satanique se déguise, et il a très très bien interprété le thème de l'Antéchrist, comme cette imitation du Christ dans la culture post-chrétienne. Cependant, les spécialistes ont été très critiques, et je crois que nous devons dénoncer des faiblesses fatales dans la thèse de Girard. Le totalitarisme de son ambition le rend suspect, voire même un peu comique. Il prétend répondre à tout, toute la culture. Mais il se donne en fait, comme en contrebande, des éléments que le système ne pourrait pas à lui seul lui fournir. Le désir, je pense qu'avant d'être affecté par le mimétisme, il est quand même une correspondance entre les besoins et les appétits et les objets. Le fonctionnement rationnel, la manière dont les humains raisonnent pour interpréter ce qu'ils ont vécu, ils n'en rendent pas compte comment ce fonctionnement rationnel est possible. Et plus encore, comment ont-ils l'idée du divin à partir de cette mise à mort? Comment aboutissent-ils à l'idée du sacré et du divin, et peuvent-ils diviniser la victime s'ils n'ont pas préalablement un certain sens du divin? Son traitement de l'écriture, tout en s'opposant à la critique libérale, il a des termes extrêmement forts, ne se soumet pas au texte. Non seulement il y a les éléments qu'il considère lui-même comme des rechutes dans la mentalité sacrificielle, mais son traitement de nombreux textes est absolument ébouriffant, renversant au sens double du terme, renversant pour le lecteur, mais renversant le sens du texte de manière assez évidente. Je l'ai montré à propos surtout du livre « Des choses cachées avant la fondation du monde » dans un article d'Ictus autrefois, avec pas mal de citations, et la manière dont il interprète le texte de Colossiens 2 sur la cédule de notre dette clouée à la croix. Je pense que c'est vraiment impossible de le soutenir. Dans « Je vois Satan », ce texte de Matthieu 12 sur Satan qui expulse Satan, je ne connais pas un seul exégète de toute l'histoire de l'humanité qui ait interprété ce passage de cette façon. Vous vous rappelez, Jésus chasse les démons, les juifs à ses adversaires disent « c'est par Béelzébul qui chasse les démons », et Jésus réplique en disant si Satan chasse Satan, sa maison va s'écrouler. Et si je chasse par Béelzébul, vos fils qui chassent les démons, par qui chassent-ils? Oui. Jésus met en lumière la contradiction de la calomnie que ses adversaires sont en train de fomenter contre lui. Il n'affirme pas du tout que ce soit Satan, effectivement, qui chasse Satan, expulse Satan. Or, c'est de cette façon que prend le texte René Girard, affirmant que Jésus dit que Satan expulse Satan. Il ne tient absolument pas compte du contexte. Et puis, ayant dit cela, il prétend que cette faculté de s'expulser lui-même par la crise mimétique résolue, c'est la force de Satan dont la croix le prive. Mais le texte de Matthieu 2 ne dit pas du tout que ce soit la force de Satan, il dit au contraire que sa maison s'écroule si c'est Satan qui chasse Satan. Donc vous voyez, c'est une exégèse dont je ne peux pas prendre le moindre élément au sérieux, je vous l'avoue. Oui. Donc il y a tout cela, et puis il y a des thèmes beaucoup plus généraux dans l'écriture, il n'y a chez lui aucun sens de la nécessité de la rétribution, de la justice. Hans Boersma cite, cite un théologien qui n'est pas un théologien évangélique, William Pletcher aux États-Unis, qui dit mais, il n'y a aucun traitement du problème de la culpabilité. Il n'a guère de sens du péché. Le péché, c'est la violence qui se déchaîne mimétiquement, mais la question de la culpabilité qui peut en résulter, absolument rien chez René Girard. Vous voyez. Donc nous avons, me semble-t-il, là une thèse que nous ne pouvons pas reprendre à notre compte. Mais alors, la question qui se pose, c'est pourquoi un tel succès et une telle influence? Il y a, à mes yeux, des motivations dont je veux me garder. Il y a l'enthousiasme de la nouveauté. Il y a la commodité d'une clé qui ouvre toutes les serrures. Et puis, il y a surtout cet absolu de la non-violence, sans souci de justice rétributive, qui est passionnément, viscéralement chéri par tant de gens autour de nous. Je pense que cela joue. Mais il y a aussi des motivations que je partage. Je crois que René Girard a discerné un facteur important, le rôle négatif du mimétisme, qui effectivement est très prononcé chez les humains. C'est un grégaire, comme on disait aussi, le panurgisme, les moutons de Panurge. Oui, et la part énorme que la violence injuste a joué dans l'édification de la culture, dans l'histoire des groupes humains. Et quel crime abominable fut la croix. Oui, je pense qu'il a vu ces choses et qu'il les fait percevoir avec une vigueur particulière. Alors, j'esquisse une proposition. Voilà, j'ai quelques minutes, mais je vais y arriver. La violence, au sens que j'ai sélectionné, s'exerçant sur l'être humain, est liée à la présence du mal dans le monde. C'est un phénomène du monde aliéné et déchu. Ah, c'est ma première thèse. Alors, je dis bien sur un être humain, car je pense que la violence intervivant, règne végétal déjà, et animal, la nature aux griffes et crocs sanglants, ça, ce n'est pas un problème dans des perspectives bibliques. Je n'en dis pas plus, vous voudrez peut-être réagir. C'est la violence s'exerçant sur l'être humain, atteinte à la vie. Deuxièmement, la violence affectant l'humain est ou bien mauvaise en soi, ou bien la conséquence justifiée des actes mauvais. C'est là qu'il y a deux possibilités pour cette violence. Pour l'humanité considérée comme un grand corps solidaire, la violence qui est toujours liée à la présence du péché peut être une juste rétribution. Il peut y avoir un usage positif, et tout à l'heure, plusieurs passages ont été cités qui montrent bien à quel point le principe de la rétribution est biblique. C'est la logique même de la responsabilité. Je suggère que cette loi, comme tu as fait, il te sera fait. On trouve là la chose dite chez Abias, par exemple. C'est analogue de la loi du rebond en physique. Il y a une réalité. Si vous envoyez un coup de poing au mur, le mur vous répond par une force symétrique et ça fait mal. Ça fait mal. Il y a un rebond, parce qu'il y a une réalité. De même dans le domaine spirituel, de même dans le monde spirituel. Un acte mauvais suscite un rebond qui est donc la rétribution, la rançon. Comme tu as fait, il te sera fait. C'est le langage plutôt moral et juridique, celui-là, mais je pense qu'on peut dire qu'on a sa traduction dans le langage cultuel, où se situent les sacrifices, la souillure est intolérable au sein. La souillure doit être éliminée, expulsée, et le porteur de la souillure est foudroyé par la sainteté. Dans le sacrifice en général, vous avez, chez les humains en général, vous avez mélange de motivation. J'ai ici une petite analyse, mais je la passe pour un peu dans mon temps. Je pense qu'on peut dire que dans le sacrifice biblique, il y a l'élément de dommage au Dieu de toute générosité, mais aussi une exigence absolue dans sa sainteté, et principalement l'élimination de l'obstacle. Le péché, la souillure, par le truchement d'une victime substitutive, doit être effacée, doit être couverte, selon les deux interprétations possibles du verbe hébraïque. Et c'est là un moyen donné par Dieu. Lévitique 17, je vous ai donné le sang. Dans l'Ancien Testament, c'est sous des figures charnelles. Dans le Nouveau Testament, ce moyen donné par Dieu, c'est la venue de Dieu lui-même en chair pour supporter la violence méritée par la faute, le traitement que la souillure requiert de la part de celui qui est saint. Nous avons une violence juste et saine dans cette réaction de celui qui pourvoit lui-même l'agneau du sacrifice, expression de Genèse 22. Seul le sang nettoie le sang. Vous connaissez la tâche, l'énigme Macbeth, cette tâche qu'aucun parfum d'Arabie ne réussit à éliminer. Seul le sang de la victime sacrificielle, efface le sang de la faute. Dans la croix du Christ, selon la sagesse divine, la violence injuste des pécheurs, dans une concentration abominable, sert de moyen au sacrifice expiatoire dont le prix est assumé par le Saint lui-même selon l'infini de sa bonté. Voilà l'Évangile. J'aime suggérer qu'ainsi le mal est vaincu en tant que mal. Non pas comme si c'était une grandeur créée, non pas comme si c'était une puissance ayant une existence propre, mais comme perversion, violation, dans la coïncidence de fait entre la violence du déni de justice et la violence consentie par la victime sacrificielle. C'est juste l'heure, je crois.
Merci.